revanche, avec ce russe embrouillé, cela ne pouvait pas se passer de façon aussi satisfaisante. Là, on sent des manques, ainsi que des énigmes qui n'ont pas été résolues. Permettez-moi de vous soumettre quelques matériaux à ce propos, tout comme ils se présentent à mon point de vue d'amateur. La psychopathologie dans laquelle Dostoïevski reste immergé peut aussi avoir ici un temps d'avance. Je crois que vous n'auriez pas dû laisser Dostoïevski avec sa prétendue épilepsie. Il est très improbable qu'il ait été épileptique. L'épilepsie est une affection organique du cerveau, extérieure à la constitution psychique, et généralement liée à une diminution et à une simplification des capacités psychiques. On ne connaît qu'un seul exemple de l'existence de cette maladie chez un homme cultivé, et ceci concerne un géant de l'intellect dont la vie affective reste bien peu connue, Helmholtz. Tous les autres grands hommes dont on raconte qu'ils étaient épileptiques n'étaient rien d'autre que des hystériques. Ce fantaisiste de l'ombre aux os ne savait pas encore effectuer un diagnostic différentiel. Cette distinction n'est pas une pédanterie de médecin, mais quelque chose de tout à fait essentiel. L'hystérie tire son origine de la constitution psychique elle-même. Elle est une expression de la même force originelle archaïque qui se développe dans l'activité de l'artiste génial. Mais elle est aussi le symptôme d'un conflit particulièrement puissant et non résolu qui fait rage entre ses dispositions originelles et qui, par la suite, déchire la vie psychique en deux camps. Je crois que tout le Dostoïevski aurait pu être construit sur son hystérie. Malgré toute l'importance que le facteur de la disposition constitutionnelle peut avoir pour une hystérie telle que celle de Dostoïevski, il est néanmoins intéressant d'observer que, même dans ce cas, l'existence de cet autre facteur auquel notre théorie accorde quelques valeurs est, elle aussi, attestée. Quelque part, dans une biographie de Dostoïevski, on m'a montré un passage qui établissait un rapport entre les souffrances ultérieures de l'adulte et une punition infligée par le père au jeune garçon dans de très graves circonstances. Le mot « tragique » me vient, à tort ou à raison, à l'esprit. Par discrétion, on ne disait évidemment rien de ce dont il s'était agi. Il vous sera plus facile qu'à moi de retrouver ce passage. C'est cette scène infantile, je n'ai pas besoin d'en convaincre l'auteur de premier événement, qui plus tard a donné à la scène précédant l'exécution la force traumatique de se répéter sous la forme d'une crise. Toute la vie de Dostoïevski sera par la suite dominée par une double attitude vis-à-vis du père, de l'autorité, la soumission voluptueuse du masochiste et la rébellion du révolté. Le masochisme enferme en lui-même le sentiment de culpabilité qui exige sa délivrance. Ce que, pour éviter un mot artificiel, vous appelez « dualisme » et que nous appelons pour notre part « ambivalence », cette ambivalence des sentiments est aussi un héritage de la vie psychique des primitifs, mais bien mieux conservé et plus près de devenir conscient dans le peuple russe que partout ailleurs, ainsi que j'ai pu le montrer, il n'y a que peu d'années de cela dans l'histoire détaillée de la maladie d'un patient qui était parfaitement russe. Cette forte prédisposition à l'ambivalence peut avoir contribué à déterminer, en liaison avec le traumatisme infantile, la violence inhabituelle de la maladie hystérique. Même les Russes non-névrotiques sont nettement ambivalents, tout comme les personnages de Dostoïevski dans presque tous ses romans. Presque toutes les particularités de son art, dont à peu près aucune ne vous a échappé, sont à rattacher à sa disposition psychique, pour nous anormale mais habituelle, pour un russe ou plus exactement, à sa constitution sexuelle, ce qui pourrait très bien être montré dans le détail. En premier lieu, tout ce qu'il y a de douloureux et de déconcertant. Il ne peut pas être compris sans la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il n'en a pas besoin puisque lui-même l'explique par l'intermédiaire de chacun de ses personnages et de chacune de ses phrases. Pour ne donner qu'un exemple, le fait que les frères Karamazov traitent justement du problème le plus personnel de Dostoïevski, le meurtre du père, et prennent pour base le principe psychanalytique de l'équivalence de l'acte et de l'intention inconsciente. De même, la singularité de sa représentation de l'amour physique, qui est soit rut instinctif, soit compassion sublimée, l'impossibilité pour ses héros de décider s'ils aiment ou s'ils haïssent, qui ils aiment, quand ils aiment, etc. Tout cela montre sur quel terrain si particulier sa psychologie s'est développée. Je n'ai pas à craindre de votre part que vous pensiez que cette mise en lumière de ce qu'on appelle le pathologique vise à diminuer ou à expliciter la grandeur du génie poétique de Dostoïevski. Je termine cette lettre.